Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Alexandre, Alexandre le Sage. Je viens de l'église de Lille, à l'église Porte des Postes. C'est un quartier, hein, pour ceux qui ne savent pas, un quartier à Lille. Et puis on est heureux d'être là, on a plusieurs liens. Le premier, c'est qu'on est frères et sœurs en Jésus. On fait partie de la même église, c'est le plus important. Puis on a aussi des liens historiques avec la famille Nice, hein, qui était il y a bien longtemps à Lille. Qu'on a rencontré quand nous on est arrivé à Lille. Il s'est bien occupé de nous quand on est arrivé jeune couple. Maintenant on a 4 enfants, à l'époque on n'avait pas d'enfants. Des liens avec Callaghan et Anne et la famille qui étaient il y a un an, c'est ça, hein, parmi nous. Enfin 2 ans. Pendant 2 ans, parmi nous. C'est ça. Okay. Et puis aussi des liens avec la famille Georgelle. On a rencontré Thomas et Adriel qui étaient aussi avec nous, avec Maxime et Vanessa. Donc voilà, je vais prier et puis après on va commencer. Seigneur, on te demande de nous aider à écouter ta parole. On te remercie parce que tu veux nous parler et que tu nous as laissé cette parole et tu nous as donné aussi ton esprit pour nous parler. Et on te prie que ce matin, ce soit un temps où ta parole est dite avec fidélité, dans ta vérité à toi et que ton esprit parle et que tu nous aides à retenir ce que toi, tu veux dire. Amen. Est-ce que certains d'entre vous connaissent un personnage qui s'appelle le docteur Bombard ? Hein ? Ah, je ne sais pas comment, quel est son prénom ? Alain Bombard. Alors, voilà, souvent, c'est les plus âgés d'entre nous qui connaissent, sans vouloir offenser, ou les plus cultivés, on va dire, qui connaissent ce personnage. Ce monsieur était assez connu dans les années 50, donc 1952, pour avoir traversé avec un simple canot de sauvetage l'Atlantique. Et pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça parce qu'il avait un fardeau. Il n'a pas fait ça aujourd'hui comme on le ferait pour un exploit ou pour le sport. Mais il avait un fardeau. Et il avait une intuition. Il disait, naufragé, je sais que vous n'êtes pas mort de la mer, mais vous n'êtes pas mort de la faim, vous n'êtes pas mort de la soif, vous êtes mort d'épouvante. Et j'avais une certitude, beaucoup des naufragés meurent bien avant que les conditions soient devenues mortelles. En résumé, ce monsieur se disait que c'était vraiment dommage qu'il y avait autant de personnes qui mouraient en mer simplement parce qu'ils n'avaient pas d'espoir. Et que le fait de montrer que c'était possible de survivre faisait qu'en fait les gens ne mouraient pas. Parce que l'espoir fait vivre. Et c'est quelque chose qui est reconnu, ça fait partie de la sagesse populaire, c'est un proverbe. Et si l'espoir fait vivre, qu'est-ce que ça devrait être pour nous, chrétiens, qui n'avons pas un espoir ? On a plus qu'un espoir, on a une espérance. Et avant d'aller plus loin sur le thème de ce matin qui sera notre espérance, il faut déjà soulever un malentendu. Parce qu'il y a espérance et espérance. On ne parle pas de la même chose. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez voir que l'espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Pour le dictionnaire, l'espérance, c'est ce qu'on aimerait bien, mais ce n'est pas sûr. Ça ressemble fort à un espoir. Mais si vous prenez l'espérance au sens biblique du terme, vous verrez que l'espérance, c'est ce qui est sûr et certain. Des choses qui ne sont pas encore là, qui sont à venir, mais qu'on peut attendre avec certitude. Et c'est bien plus qu'un espoir. Hébreux 6,19 nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre sûre et solide pour l'âme. » Et la Bible nous parle beaucoup d'espérance. Elle nous parle du retour de Jésus, victorieux. Elle nous parle de la fin de ce monde, elle nous parle du jugement dernier, elle nous parle de la vie éternelle, etc., etc. Mais, à votre avis, pourquoi la Bible nous parle autant d'espérance ? Est-ce que c'est pour notre culture générale évangélique ? Est-ce que c'est parce qu'il manquait des matières dans les instituts bibliques ? L'eschatologie ? Est-ce que c'était pour vendre des livres chrétiens ? Non. La réponse, c'est la Bible elle-même qui la donne. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc quand la Bible nous parle d'espérance, c'est utile. C'est pour maintenant, c'est pour nous former, c'est pour nous équiper. L'espérance chrétienne, c'est du concret. C'est des féculents, des vitamines pour vivre chaque jour. Autrement dit, le chrétien doit avoir la tête au ciel pour marcher de la bonne manière sur terre. Et ce matin, on va parler de ça. On va regarder ce que ça change dans notre vie chrétienne d'avoir cette espérance. Et pourquoi c'est important pour notre vie de maintenant de cultiver cette espérance chrétienne. Et pour ça, je vous propose de prendre un texte dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2. Je vous laisse ouvrir vos Bibles. Dans Tite, chapitre 2, et on va lire les versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Et pour le contexte, on a déjà dit pas mal de choses. C'est écrit par Paul, l'apôtre. C'est écrit à une personne qui s'appelle Tite. Et Paul écrit à un de ses disciples qui est dans une église en Crète, dans l'église à Crète, et qui lui explique ce qu'il faut faire pour cette église, ce que Tite doit enseigner et mettre en œuvre dans l'église en Crète. Je vais donc lire les versets 11 à 14 du chapitre 2 de l'épître de Paul à Tite. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Donc ce matin, on va voir l'impact de l'espérance dans notre vie. Un chrétien doit avoir la tête au ciel pour marcher de la bonne façon sur terre, et on va le voir en prenant verset par verset. On va prendre les trois premiers versets, ça sera nos trois premiers points, et puis le verset 14, on le verra en conclusion. Donc premier point, verset 11, un chrétien a la tête au ciel. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Paul nous dit, la grâce nous sauve. Alors on pourrait se demander, c'est qui la grâce? Vous savez, ce n'est pas une quatrième personne de la Trinité, ce serait la quaternité. En fait, Paul utilise ce qu'on appelle une personnification, c'est une figure de style où il assimile la grâce à une personne. Mais derrière la grâce, il y a Dieu. Il y a toute la Trinité qui œuvre pour notre salut. Dieu qui déverse volontairement son amour, sans aucun mérite, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous pardonner. Derrière ce mot, la grâce, il y a Jésus, Christ, Fils de Dieu, fait homme, pour mourir, ressuscité, pour notre salut. Derrière ce mot, la grâce, il y a le Saint-Esprit, qui vient nous convaincre de péché, nous donner une vie nouvelle. Et Paul nous dit, ce salut, il a été révélé. Mais autant ce salut, il est sûr, on l'a chanté, j'ai l'assurance de mon salut, autant il est sûr, autant il n'est pas encore là. Paul dit dans Romains 8, 24, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Petite illustration, j'aime le cyclisme, j'aime regarder du vélo à la télé. Et au Tour de France, il y a quelque chose de bizarre, c'est que le vainqueur, on l'annonce toujours avec certitude la veille de l'arrivée. Il reste encore une étape, il reste encore 100 km, mais celui qui est premier la veille de l'arrivée, on dit il a gagné le Tour de France. Il n'a pas encore les honneurs, il n'a pas encore la prime du vainqueur, son nom n'est pas écrit sur le palmarès, mais on sait, il a gagné le Tour de France et ça marche à tous les coups. C'est la même chose pour le chrétien. On est encore sur terre, on partage encore la condition de l'homme déchu, on ne voit pas encore notre sauveur, on reste encore touché par le péché, on reste imparfait, mais on est sauvé. On est sauvé pour une espérance à venir. Alors, on a les pieds sur terre, Mais est-ce qu'on fait bien du coup d'avoir la tête au ciel, puisque pour l'instant on est dans ce monde déchu? La réponse est oui, oui, oui. Justement parce que la grâce est la source de notre salut. Et puisque c'est la grâce qui est la source de notre salut, on peut être sûr. Parce que ça ne dépend pas d'autre chose que de la bonté imméritée de Dieu. Ça ne dépend pas d'autre chose que de cet amour, ce pardon qui nous a été donné. Notre salut a des fondations inébranlables, la grâce de Dieu. Et donc, le chrétien, il a les pieds sur terre, c'est des pieds écorchés, c'est des pieds abîmés, c'est un pas lourd, un pas trébuchant, il se relève régulièrement, mais il peut avoir la tête au ciel en toute assurance, parce que la grâce de Dieu a été révélée. Donc oui, c'est sage, oui, c'est rationnel, oui, c'est cohérent, c'est juste, c'est nécessaire que nous ayons la tête au ciel, que nous ayons en tête la destination finale. Si, et c'est important, nous sommes de ceux qui avons accepté cette grâce. Et finalement, ce serait absurde de ne pas cultiver notre espérance, d'avoir les pieds sur terre et la tête à regarder nos pieds. On ressemblerait un peu à une personne qui habite Saint-Quentin et qui décide d'aller chercher le soleil et d'habiter pour le reste de la fin de sa vie à Nice. Et en fait, cette personne, elle déciderait de partir. Et elle prend sa décision, et puis elle passe des semaines à préparer son voyage. Elle nettoie sa voiture, pour qu'elle soit nickel. Elle fait plein de magasins pour aller chercher des housses de siège qui iront bien avec son pull, pour que ça soit bien raccord, c'est hyper important. Elle chercherait la bonne bouteille d'eau qui irait bien sur, vous savez, l'endroit où vous pouvez placer votre bouteille d'eau sur le siège. Elle comparerait les prix, les formes des bouteilles. Elle irait sur des sites internet pour comparer les stations de service, regarder le prix des cafés, la propreté, comparer la qualité du nettoyage, etc., etc. Et puis quand elle arrive à Nice, bah, elle n'a rien préparé, parce qu'elle était à fond sur son voyage. Absurde ? Ridicule ? Oui. Eh bien, c'est exactement ce que font les chrétiens quand on a la tête sur terre et non pas la tête au ciel. Quand on vit pour le voyage et pas pour la destination. Et en fait, si on y réfléchit bien, ce n'est pas possible de vivre une vie chrétienne sans espérance. Prenez juste le sermon sur la montagne, vous le lisez, et si vous n'avez pas l'espérance, qu'est-ce que ça donne ? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Plus loin, heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Plus loin, amassez-vous des trésors dans le ciel, etc., etc. Mais ça, si vous n'avez pas la tête au ciel, c'est du blabla, c'est de la poésie, c'est de l'autoconviction, c'est même du délire ou de l'arnaque, ça n'a aucun sens. Sans espérance, notre obéissance, notre fidélité, nos sacrifices, nos gestes d'amour deviendront vite des « à quoi bon ?»« Pourquoi je m'embête ?»« À quoi ça sert ?» Alors, où avez-vous la tête ? Sur le chemin ou sur la destination ? Avez-vous la tête au ciel ? Deuxième point, on va lire le verset 12. Donc, c'est écrit « elle », mais c'est la grâce. Hein. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Deuxième point, avoir la tête au ciel, ça change notre marche sur la terre. Paul dit, la grâce nous sauve et elle vous transforme, dès maintenant, dans le temps présent. Elle vous assure un avenir et elle change vos journées. Le salut, c'est pour toujours et ce toujours, en fait, il commence maintenant. Autrement dit, plus on aura la tête au ciel, et mieux nous marcherons sur terre. C'est donc pas possible pour un chrétien de dire « puisque je vais au ciel, j'attends. Je vis en regardant, tout va bien, mes pieds sur terre, et j'ai rien à changer, j'ai pas besoin de changer ma vie. » En fait, c'est pas possible. C'est jamais ce que la Bible enseigne. Et peut-être si on avait écrit nous-mêmes la Bible, on aurait fait autrement, parce qu'on connaît notre cœur en disant « faut pas trop donner d'assurance aux chrétiens ». Parce qu'il risque d'en profiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite condition pour maintenir une petite pression. Vous savez, comme avec les enfants, si vous êtes sage, vous aurez une glace. Par contre, vous n'avez même pas besoin de finir la phrase, ils ont compris. que s'ils veulent la glace, il faut être sage. Ben, notre cœur, il est comme ça. Mais Dieu veut nous transformer autrement que par cette condition qui ferait que finalement ce serait plus la grâce qui nous sauverait. En fait, la grâce ne fonctionne pas comme ça. Elle est imméritée. Elle est inconditionnelle. Elle nous inonde. Elle nous submerge d'un amour merveilleux. Elle nous remplit d'admiration, de reconnaissance et elle nous met à genoux. Et elle nous fait pleurer de joie et nous donne une assurance totale qui nous permet de vivre une vie radicalement orientée vers le ciel. Paul le dit ailleurs dans 2 Corinthiens 3, verset 12. Puisque nous avons une telle espérance, profitons-en. Non. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Une grande assurance pour vivre une vie radicalement tournée vers le ciel. Et cette espérance sûre, elle nous convainc de l'amour de Dieu. Elle nous remplit d'assurance pour vivre une vie radicale sur cette terre. Et c'est quoi cette vie radicale? Ben, regardons Tite. Si on regarde ce qu'il y a écrit dans Tite, ce que Paul demande, c'est que la vie des chrétiennes soit différente. C'est qu'elle soit marquée par ce qu'ils croient. Et comme souvent, Paul l'explique par un double mouvement. Ce double mouvement de la vie chrétienne, cette vie différente, c'est à la fois un mouvement négatif et un mouvement positif. Ce mouvement négatif, c'est ce que je vais enlever dans ma vie. C'est ce qu'il appelle dans ce verset le renoncement à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. J'enlève. Et puis il y a un mouvement positif. C'est ce que je vais devoir chercher, mettre dans ma vie. C'est la deuxième partie du verset, vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Et en fait, c'est vrai que c'est dur. C'est dur de le vivre si on a seulement les pieds sur terre. Sans avoir la tête au ciel, en fait, ces changements, ils sont pas du tout intuitifs. C'est peine perdue. On ne tient pas. Et juste avant, Paul, il vient d'expliquer à Tite ce qu'il devait dire aux esclaves. Et il leur dit, ben Tite, il lui dit, Tite, il faut que tu encourages les esclaves, alors je lis, à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, à pas commettre le moindre vol, et à se montrer toujours digne de confiance. Et moi, je me mets à la place de Tite, qui lit la lettre, qui arrive à ce passage en disant, mais, enfin Paul, t'es gentil, mais enfin, dire ça aux esclaves, c'est chaud, quoi. Et eux, ils sont esclaves parce qu'ils sont obligés. Je ne vais pas leur dire d'être contents, de servir leur maître, d'être toujours digne de confiance. Si tu veux bien, Paul, ça, j'attends et tu le diras toi-même. Ben oui, c'est difficile. Oui, c'est un côté impossible. Mais si on regarde au ciel, ça change tout. Et la motivation, elle est là. Pour qui on va le faire? Mais on va le faire pour notre Seigneur, qu'on attend, qu'on verra. Et pour nous, c'est la même chose. Peut-être on n'est pas esclave. Mais nos défis sont toujours aussi difficiles. Ce mouvement négatif, ce que je dois enlever, ce mouvement positif, ce que je dois gagner, ça reste tellement difficile. Renoncer à un style de vie impie. Mais en fait, tous les jours, je me réveille dans ce monde impie. Je fais partie de ce monde impie. Le péché, mais tout le monde me dit que c'est pas grave. Tout le monde me dit que c'est normal. Parfois, on l'appelle même le bien. Et puis en plus, quand je renonce à l'impiété, je deviens un extraterrestre. On dit, il est différent, il est bizarre, lui. Renoncer aux convoitises de ce monde, renoncer à ce qui fait l'estime de tous ceux qui m'entourent, ce que les gens appellent succès, épanouissement, objectif de vie, ressourcement, besoin, toujours se justifier. Ah ouais, même ça, t'as pas le droit de le faire. Ah ouais, même ça, tu peux même pas en profiter. Enfin, franchement, c'est dur, c'est fatigant, c'est humiliant. Vivre conformément à la sagesse, la piété, la justice, mais pourquoi? Pourquoi tu t'embêtes? La plupart du temps, en plus, personne ne voit. Ça change quoi? Et quand on se rappelle où on va, quand on a la tête au ciel, tout ça devient cohérent, parce qu'on fait pour notre Seigneur qu'on attend. Petit exemple de défi personnel que ça peut être, c'est une manière personnelle de le vivre, il n'y a rien de... c'est pas un commandement, c'est voilà, pour montrer comment... parfois, ça s'impacte dans notre vie. On a la conviction avec Nathalie, mon épouse, polygamie inversée. Mon épouse, qu'on doit habiter dans le quartier dans lequel nous sommes. Et le fait qu'on habite dans ce quartier dans lequel on est fait qu'on habite dans une maison qu'on n'aime pas beaucoup, qui est aussi où il y a des problèmes dans cette maison d'infiltration. Et c'est une maison où on est locataire alors qu'on pourrait être propriétaire. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autres maisons. Et franchement, c'est dur. C'est dur parce que, en fait, la plupart des gens vous expliquent que la sagesse, que ce qui est juste, c'est d'être propriétaire. Et que c'est une folie que d'être locataire. Et quand on vous le dit, on vous le redit, et bien au bout d'un moment, vous avez juste envie de dire j'abandonne ou stop, j'en ai marre. Et c'est dur. Mais en fait, lever la tête au ciel, se rappeler pourquoi on le fait, se rappeler que nous sommes du voyage et que nous ne sommes pas dans la destination, ben ça change tout. Ça change la perspective. Je ne dis pas que vous devez tous vendre vos maisons et être locataires. Vous avez compris? Je pense que vous avez tous ce genre de défi. Et regardez la destination. Regardez notre espérance. Change la manière de vivre les choses. Quand on vit la tête au ciel, à quoi bon se retourne, s'inverse. Si vous avez la tête sur terre, c'est à quoi bon obéir. Si vous avez la tête au ciel, c'est à quoi bon investir dans ces choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Quand vous prenez le train, ou quand vous êtes dans un aéroport, il y a toujours des gens bizarres. Vous êtes à Lille, il fait 8 degrés, ils ont des tongs, des lunettes de soleil, une planche de surf. Vous êtes à Rennes, ils ont des skis. Vous êtes dans un aéroport à Paris et ils se prennent la tête pour savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir tirer de l'argent au Sénégal. Est-ce qu'on dit qu'ils sont bizarres? Non, c'est cohérent. Parce qu'ils sont hors contexte. C'est tout à fait normal. Et nous, quand on nous regarde, est-ce qu'on se dit, lui, il est hors contexte? Quand on est au travail, quand on est dans le voisinage, avec nos amis, est-ce qu'on se dit, mais lui, il va où? Il va pas au même endroit que nous, lui. Quand on regarde notre façon de dépenser notre argent, quand on regarde nos week-ends, quand on regarde ce qui nous réjouit, quand on regarde ce qui nous attriste, quand on regarde notre manière dont on réagit à l'offense, à l'injustice, quand on travaille, quand on a du temps libre, est-ce qu'on se dit, lui, il est hors contexte? Si oui, c'est certainement parce que la grâce nous a rencontrés et est en train de nous transformer. Parce que nous avons la tête au ciel et nous sommes en train de marcher différemment sur terre. Une citation pour appuyer ce que je viens de dire de C.S. Lewis. Les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent sont ceux qui avaient le plus la tête dans le monde à venir. Et c'est depuis que les chrétiens ont cessé de se préoccuper du monde à venir qu'ils sont devenus si inefficaces dans leur présence sur terre. Troisième point, donc je vais relire le verset 12 et on va enchaîner sur le verset 13, parce qu'on a besoin de comprendre, pour comprendre le verset 13. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc la grâce nous donne un avenir sûr et certain, une espérance. Cette espérance nous transforme et nous amène à vivre différemment sur terre. Et Paul dit comment le faire? Parce que c'est dur, on l'a vu. Et comment le faire? Il le dit en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Comment la grâce va-t-elle nous enseigner à vivre selon notre salut? Par l'attente de notre Seigneur Jésus qui va revenir un jour. Il va revenir dans sa gloire et il va tout changer. Et c'est pas en attendant comme on utilise tous les jours, en attendant je sors mon smartphone, en attendant le bus, ou en attendant bah, j'avais rien d'autre à faire donc j'ai fait un peu de rangement. C'est pas une activité par défaut. C'est un attendant actif. C'est une activité en tant que telle d'attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça se cultive. Et cette attente, en fait, c'est un puissant moyen de grâce pour nous transformer, pour nous aider à vivre cette vie sur terre comme Dieu le veut. Depuis quelque temps, moi j'ai un patron qui. Alors je travaille dans une mairie, mon patron c'est le maire. Et le maire, ben, il a un métier. C'est bien souvent, sauf s'il est retraité, il est obligé d'avoir une activité professionnelle en plus. Et donc maintenant il travaille à Paris. Et donc moi je travaille dans le Pas-de-Calais et en fait on se voit assez peu, il est loin. Et je sais je l'attends pour qu'il revienne, pour que je puisse voir avec lui un certain nombre de choses. Et voilà, il a cette manie de ne pas vraiment me dire quand il revient. Donc je sais qu'il peut revenir n'importe quand. Alors il y a un côté en fait très positif qui m'aide à bien travailler. Il y a un côté qui m'aide à être à jour dans mes dossiers, toujours prêt, à être, voilà, à tout arrêter et pouvoir le voir et voir le dossier que je dois voir avec lui. Je l'attends et ça m'aide à bien travailler. Eh bien, Jésus, lui, va revenir. Il va revenir dans sa gloire. C'est une bienheureuse espérance pour ceux qui croient en lui. Et il va revenir sans qu'on sache quand il va, quand va être ce retour. Et c'est un puissant moyen de grâce pour nous enseigner à vivre sur terre comme il le veut. Alors, il faut cultiver notre espérance. Si nous voulons vivre la vie telle qu'il le veut, il faut qu'on se rappelle sans cesse qu'il va revenir, que c'est une espérance bienheureuse et c'est ce qu'on attend. Alors, comment cultiver notre espérance? Vous pouvez utiliser un moyen mnémotechnique, vous pouvez utiliser le BEP de la vie chrétienne. Vous savez, BEP, c'est un diplôme de base pratique qui donne un métier. Et le BEP de la vie chrétienne, c'est bien souvent on l'utilise, c'est Bible et Église prière. Comment cultiver son espérance? Ce n'est pas possible de la cultiver sans la Bible. D'où vient votre espérance? Elle vient de la Bible. C'est elle qui vous dépeint cette espérance. Et si vous n'avez pas, vous ne vous abreuvez pas de la Bible, vous ne cultiverez pas votre espérance. Donc si vous voulez nourrir votre espérance, lisez la Bible, méditez-la, donnez-lui une place importante, primordiale, majeure dans votre vie. Vous allez me dire, mais comment je vais faire? Ça veut dire que tous les jours, je dois lire l'Apocalypse? Ça veut dire que tous les jours, je dois me faire une liste de textes qui parlent du ciel et les relire? Eh bien, non. Parce que la Bible cultive notre espérance de trois manières. Elle la cultive en dépeignant notre avenir, ce qu'on vient de dire, ces passages qui nous parlent du retour de Jésus, du jugement, de la vie éternelle. Et c'est des passages à cultiver. Et quand vous les lisez, vous vous arrêtez. Moi, je les souligne en vert, c'est la couleur de l'espérance. Et je veux les garder pour ma journée, pour me dire, voilà où je vais. Mais elle le fait aussi en rappelant notre passé. La Bible cultive notre espérance en rappelant ce qui s'est déjà passé. Si vous prenez les prophètes, quand ils parlent de l'avenir, qu'est-ce qu'ils font? Bien souvent, ils parlent de l'Exode. On pourrait dire, mais c'est bizarre, tu nous parles de ce qui va venir, puis tu es en train de nous raconter des vieux trucs. Mais en fait, c'est logique. Regardez ce que Dieu a déjà fait. Il est le même, hier et aujourd'hui, et pour l'éternité. Et ça nous encourage aussi de voir que ce Dieu qui a déjà fait de grandes choses, il ne change pas. Et ça nous encourage aussi à voir ce qu'il va faire. Donc elle cultive notre espérance par notre avenir, par le passé, et aussi en nous parlant de notre présent, en nous montrant la vanité de notre monde, en nous montrant que ces richesses, que les valeurs du monde, elles sont futiles, vaines, amenées à disparaître, et en nous montrant la vie qu'on doit mener en ayant la tête au ciel. Ça, c'est le B du BEP, c'est la Bible. Le E, c'est l'Église. Quand il y a des gens qui vivent hors de leur culture d'origine, qu'est-ce qu'ils font bien souvent? Ils vivent en expatriés et ça leur fait du bien. Ils vivent en communauté et ils fêtent les fêtes comme on les fête dans leur pays. Parce que ça leur rappelle d'où ils viennent, ça leur permet de cultiver leur identité. Eh bien nous aussi, nous avons une communauté d'expatriés. On n'est pas chez nous, mais on peut vivre en communauté, en expatriés du ciel. Et ça nous encourage à vivre ensemble, la tête au ciel, à nous rappeler ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi qu'on doit mener une vie d'église qui ne se résume pas au dimanche matin. Si vous voulez vraiment cultiver votre culture d'expatrié du ciel, ça veut dire aussi avoir une vraie relation fraternelle dans la semaine, régulière, quotidienne. Et puis le P du BEP, c'est la prière. On a le privilège de venir librement au Père et on peut lui dire, écoute, je te demande pardon parce que tu me dépeins une espérance extraordinaire. Tu es mort pour moi pour ça. Et en fait, j'oublie. Et je vis comme si tout ça n'était pas là. Et on peut lui dire, on peut se repentir, on peut lui exprimer nos combats, lui demander de mettre dans notre cœur cette pensée de l'éternité, de nous mettre la tête au ciel. Et puis, peut-être aussi, simplement, suivre le Maître. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Maître, Jésus? Comment prier? Il a dit, je vais vous donner une prière. Notre Père qui est aux cieux, ah oui, notre Père est au ciel et c'est là où je vais. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ah oui, reviens Seigneur, reviens. C'est vrai, tu vas revenir et je voudrais que ça vienne vite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ah oui, il y a un endroit où ta volonté elle est parfaite. Puis je vais, et Voilà, avec le Notre Père, rien qu'en suivant le Maître, on va mettre notre tête au ciel. Comment cultiver notre espérance? BEP, Bible, Église, prière. Et un BEP, c'est pratique. C'est vous apprenez pour travailler un métier avec vos mains. Voilà, vous apprenez vraiment à faire des choses. Alors mettez en pratique. Et mettre en pratique, ça veut dire quoi? Ben, c'est oser la vie radicale. La vie radicale qui vit déjà pour la destination. En coupant avec le péché, même si ça coûte. En coupant avec des plaisirs, des passions terrestres qui n'ont pas de valeur au ciel. En vous engageant dans des gestes fous. Des gestes fous pour les terrestres, mais sages pour les célestes. En donnant de votre temps, de votre argent, pour le royaume de Dieu, en aimant votre prochain comme vous-même, en pardonnant celui qui vous a offensé, etc. etc. Ce serait quoi pour vous les bonnes décisions à prendre aujourd'hui pour vivre comme si vous aviez la tête au ciel? Je conclue. Imaginez que vous ayez dans vos Bibles tout, sauf les passages qui vous parlent de l'espérance. La question peut paraître bizarre, mais elle n'est pas si absurde. Elle n'est pas si absurde parce que Paul se l'est posée ailleurs. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il a dit « Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Et voilà ce qu'on risque à oublier, à négliger notre espérance. On risque de finir par croire qu'on est le plus à plaindre de tous les hommes. On risque de croire que la vie chrétienne... C'est naze. À quoi ça sert? On risque de perdre la vision du ciel et du coup de ne plus marcher de la bonne façon sur terre, de devenir un triste chrétien qui finalement vit de moins en moins comme un chrétien. Mais Paul poursuit, mais en réalité Christ est ressuscité. Il dit au verset 14, dans Tite, « Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute faute pour se faire un peuple qui lui appartienne purifié et zélé pour de belles œuvres. » On n'a pas, comme les naufragés, un docteur Bombard qui, une fois, a réussi à traverser l'Atlantique. On n'a pas un exemple que, oui, c'est possible de vivre parfaitement sur terre et d'aller au ciel. Ce n'est pas ce que Jésus nous a offert. Il nous a offert un exemple, mais il nous a offert bien plus qu'un exemple. Il nous a offert sa propre vie pour nous sauver. Notre Sauveur a tout accompli. C'est lui l'embarcation sûre, insubmersible, dans laquelle on peut monter gratuitement, sans en descendre, pour nous faire franchir l'océan du péché, pour arriver à la vie éternelle avec Dieu. Notre espérance, c'est lui. C'est une espérance qui est sûre et certaine, et c'est lui que nous attendons. Et cette espérance, elle est indispensable pour votre vie chrétienne. J'ai fondamentalement besoin de cultiver l'espérance, pour vivre de la bonne façon sur terre. Alors, cultivons notre espérance, seul, en église, levons la tête vers le ciel, pour marcher de la bonne façon sur terre. Je vais prier. Merci parce que notre espérance est en toi. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli. Merci pour cette grâce imméritée, cette assurance du salut que tu nous donnes. Merci parce qu'elle elle a coûté le prix de la vie du Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et merci de nous avoir entraînés dans cette résurrection. Seigneur, je veux te demander de nous aider à cultiver cette pensée de l'éternité que tu nous offres. On te prie que nous soyons focalisés sur cette espérance. Et nous aider aussi ensemble à la vivre, et je te prie que dans cette église, il puisse y avoir cette communion, cet allant de nous encourager à vivre en ayant en tête ce royaume dans lequel nous sommes déjà et qui nous est acquis par ta vie. Amen.